Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Aujourd'hui, nous abordons un thème brûlant, trop souvent esquivé, hein, la France face à ses tabous, immigration, identité et manipulation médiatique, un sujet où se heurte réalité démographique, fracture culturelle, silence médiatique et manipulation du débat public. Pour en parler avec lucidité, pardon, courage et esprit critique, j'ai le plaisir d'accueillir un invité, hein, qu'on a déjà reçu et qui ne mâche pas ses mots et ne se soumet à aucun dogme psychodélique, apostat de la zététique, défenseur intransigeant de l'esprit critique et l'une des voix indépendantes les plus acérées du paysage francophone. Nous allons explorer ensemble, sans langue de bois, les questions qui dérangent et qui comptent. Eh bien, merci Psychodélique d'avoir accepté à nouveau mon invitation.
Bah, tout le plaisir est pour moi.
Alors, je vois que ça vous a fait sourire, mais c'est comme ça que vous vous présentez, oui. Hein, comme apostat de la zététique et défenseur de l'esprit critique. Qu'est-ce qui vous a amené à rompre avec certains milieux sceptiques ou rationalistes, et comment définissez-vous votre journalisme indépendant aujourd'hui?
Pour répondre, en fait, c'est plus une crotte de nez, c'était de me dire apostat de la zététique, puisque c'était un milieu que je fréquentais pas mal, et il y a eu une politisation en fait, du milieu, exactement comme les mouvements woke dans les universités qui ont politisé les milieux. Mm-hmm. Et du coup, ils ont utilisé la zététique pour faire passer des idéologies un peu gauchisantes, woke, et qui étaient totalement en décalage total avec ce qu'était la zététique première et l'esprit critique premier. Donc c'est pour ça aussi que je les avais pas mal critiqués là-dessus, il y a eu une petite passe d'armes. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, je vais apostasier de la zététique un peu pour faire une référence aux apostats de l'islam, qui sont aussi beaucoup, beaucoup de mal à avoir apostasié de leur religion, et ils subissent encore les courroux et les dangers que peut apporter l'islam. Alors évidemment, au niveau de la zététique, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus soft, ça n'a rien à voir avec... Mais c'est assez rigolo comme...
C'est
parallèle.
Pour ça que je l'ai repris.
Ouais, c'est pour ça que je l'ai repris, ça me fait rire.
Avec les tensions autour de Jean-Luc Mélenchon, hein, tout ce qui est origine, rhétorique et les réactions à gauche après divers événements, que pensez-vous de l'état actuel psychodélique de l'opposition et du débat public en France?
Moi, à titre personnel, je trouve que ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'avoir une gigantesque cour d'école où il n'y a aucun programme de fond, il n'y a aucune solution, il n'y a que des gens qui lancent des one-liners, des punchlines, des phrases qui vont créer des polémiques, mais au final, le fond, il n'y a strictement rien. Là, pour comme tu as cité Mélenchon, Mélenchon, récemment, dans la dernière vidéo que j'avais traitée, il parlait d'un coup de ses parents qui n'étaient pas colons, c'est un pied noir. Ça sert à quoi de mentir là-dessus? C'est un fils de colon, il a 70 ans, je me dis, c'est horrible de mentir là-dessus.
Ah, c'est surtout pas sérieux, oui.
Et juste assumer son passé, assumer son truc, et juste par honneur à ses parents, ou j'en sais rien. Et aussi quand il dit, moi je n'ai jamais utilisé la question de la racialité ou de la couleur de peau, je fais non, mais au bout d'un moment, je me dis que forcément il sait pertinemment qu'il l'a dit, et il sait pertinemment, c'est juste qu'il nous prend pour des cons, finis. Et il sait que cette phrase va être reprise absolument partout, va être commentée, et plutôt que de parler vraiment du fond du problème ou ce genre de choses. Et c'est extrêmement, extrêmement agaçant. Et je sens que c'est une espèce de cocotte minute qui monte de plus en plus en termes de pression. Et pour 2027, pour 2027, ça va être insupportable. Et là, Mélenchon, la gauche, sont en train de bien militariser et... les influenceurs, les streamers de gauche et ce genre de choses.
Quand vous dites insupportable, c'est-à-dire de façon générale au niveau des présidentielles
c'est ça, au niveau des présidentielles, quand je dis 2016, oui, c'est ça, c'est par rapport aux présidentielles, par rapport au remplacement de Macron, ça va juste être
un cauchemar,
parce que tout le monde va s'extrémiser, tout le monde va s'énerver de plus en plus, il va y avoir une parole qui va être de plus en plus... toxique, et dans le brouhaha général, j'estime qu'il n'y aura quasiment aucun discours de fond ou aucune véritable chose. Et au final, 2027, pour préchoter un peu, je me dis, j'ai l'impression qu'on va forcément être perdant. Soit on va avoir l'extrême droite, ça va être un bordel, soit on va avoir l'extrême gauche, ça va être un bordel, soit on va avoir quelqu'un du centre, et ça va être un bordel, en fait. J'ai très peu d'optimisme sur ce qui va arriver après 2027.
Et on voit régulièrement des faits divers aussi, hein, qui impliquant des violences, hein, dans les stades, les foires ou les quartiers, comme l'agression récente d'un jeune footballeur. Selon vous, y a-t-il un pattern, comme on dit, culturel ou sociologique que les médias mainstream refusent d'aborder ?
Totalement. Ça, c'est un truc qui pareil, qui est exaspérant. Et je suis persuadé que ça participe malheureusement grandement à nourrir l'exaspération des gens et à nourrir les extrémismes. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, par exemple, on prend un fait divers au hasard, il y a un coup de couteau, il y a une personne qui est décédée d'un coup de couteau, les journalistes, alors moi je les appelle les journalistes labellisés ironiquement, ils vont dire « Oui, un Français a fait un coup de couteau, ici il y a eu un mort. » Je dis « Mais pourquoi dire Français ?» Enfin, je veux dire, dites tout de suite, on le sait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Français qui donnent des coups de couteau, mais la culture du couteau, elle n'est pas vraiment chrétienne, elle n'est pas vraiment français de souche ou européen, elle vient d'une autre culture, la culture du couteau, ou d'arriver aussi facilement aux armes blanches. Et on le sait pertinemment, et que les journalistes passent leur temps à cacher les origines des gens, je trouve que ça renforce le racisme à un niveau toxique, parce que les gens se disent, voilà, on nous cache encore des trucs, alors qu'on sait, tout le monde sait, machin. Alors qu'ils diraient juste, ok, il y a une personne de telle ethnie qui a poignardé, machin, la justice va s'en occuper. Et après, l'autre problème, c'est que la justice est complètement démissionnaire et totalement laxiste sur ces choses-là. Récemment, là, en venant justement pour l'émission, j'ai vu un peu je sais plus quelle émission de journalisme. Il y avait une fusillade dans une cité, là, récemment, avec de plusieurs morts. Et il y a un policier qui a témoigné de la ville et qui dit ce sont des étrangers illégaux qui sont là, qui maintiennent le quartier. On les arrête 20 fois par semaine, ils sont relâchés et la justice ne fait rien, on ne sait plus quoi faire. Je pense que, du coup, le gros problème, il est là, c'est entre cette justice ultra laxiste où tu as l'impression qu'ils ont tous les droits et on ne peut rien faire, et de l'autre côté, un citoyen qui va juste mettre un pas de côté et va se faire emmerder par la justice de manière catastrophique pour rien. Et je dis pas non plus d'aller jusqu'à des trucs comme Bukele ou ce genre de choses, mais de serrer un peu plus la vis et que la justice, on se dise, voilà, il a fait une bêtise, la justice est là. Et ironiquement, tous ces ressortissants, dans leur propre pays, il y a une justice et il y a une police qui est là, quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et je me dis, le prochain président, il faut qu'il reboote totalement la justice, qu'on reparte de zéro, qu'on dégage tous les juges et la justice et qu'on reparte de zéro.
Eh ben, il y a du boulot.
Il y a du boulot, parce que moi, j'en ai marre du commentaire. Oui, mais on est dans un état de droit, tout le monde a le droit à une défense. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec ce discours aussi. Il faut rendre la justice un peu plus humaine.
Et France Travail publie des offres d'emploi, psychodéliques pour imams.
C'est ça.
Ce qui a provoqué une polémique, est-ce un symptôme d'une islamisation rampante des institutions ou simplement une maladresse administrative ?
Pour moi, c'est un mix des deux. On est dans une islamisation délétère, un peu comme en Grande-Bretagne, comme en Belgique, ou ce genre de choses, où il ne faut surtout pas critiquer ni repousser l'islam, sinon on est islamophobe directement, et donc on laisse absolument tout rentrer entre les frères musulmans, les entrismes et tout ça. Au final, ils acceptent l'offre d'emploi parce qu'ils avaient peut-être peur de passer pour des islamophobes s'ils la refusaient. Alors qu'une offre d'emploi pour un imam, dans un pays laïque, ça n'a aucun sens. C'est absolument pas compatible ni avec la République, ni avec les lois, ni avec ce qu'on veut. Et je me dis que s'il y avait eu des offres d'emploi pour des curés, ça aurait fait un scandale, ça aurait fait les plateaux télé, vous vous rendez compte, la France est laïque. C'est un peu le même débat. Regardez, il y a des crèches dans des mairies, c'est scandaleux. Et là, on a des offres d'emploi pour des imams.
J'aimerais bien avoir qu'est-ce que vous pourriez... Vous penseriez à quelle solution, par exemple ?
De quoi pour ça ?
Oui.
De quoi pour les imams ?
Que vous pourriez proposer concernant... tout ça là qui provoque des polémiques.
Moi le truc, pour moi c'est que il y a eu trop de laisser aller et c'est trop de laxisme. C'est-à-dire qu'on serre bien la vis. Au bout d'un moment, on bloque absolument toute nouvelle entrée d'immigration. On dégage déjà tous ceux qui sont illégaux. On arrête on arrête toutes les nouvelles constructions de mosquées un peu à gauche à droite et toutes les subventions qui sont données par la mairie, parce que c'est facile aussi, ils louent des emplacements de mosquées à 1 euro symbolique ou ce genre de choses, c'est une catastrophe. Et du coup, il y a des mosquées de partout, il y a un islamisme de partout. On interdit définitivement le voile, aussi bien pour les grands que pour les petits. C'est pareil, on interdit les voiles pour les petites filles. La petite fille, elle va grandir au bout d'un moment, donc ça n'a aucun sens. Et on serre la vis beaucoup plus fort. On regarde comment ça avance. Est-ce que ça s'apaise? Est-ce que le climat s'apaise? Est-ce que les tensions s'apaisent? Est-ce que le... Et après, on peut redesserrer la vis potentiellement. Mais au bout d'un moment, il faut serrer la vis. C'est comme moi, j'ai ma fille des fois qui fait des bêtises. Je la punis, elle va dans sa chambre. Au bout d'un moment, elle range sa chambre. Et là, en fait, on a des gens qui font une bordélisation absolue d'un pays entier. Et la moindre indignation, la moindre critique, c'est « Ah, t'es raciste, t'es facho, t'es transphobe, t'es islamophobe, c'est insupportable. »
Et du coup... Maintenant, oui, on est facho dès qu'on dit un truc.
C'est ça. J'avais rigolé avec un ami. Je dis « Ouais, franchement, pour reprendre une phrase célèbre, c'est « Ouais, si t'as pas été accusé de facho à 50 ans, t'as raté ta vie. »
Oui.
Ça m'avait fait rire.
Vous l'avez pas dit pendant un live, ça?
Si, je l'ai sûrement dit pendant un live, ouais, ça m'avait fait rire aussi. Mais oui, non, mais c'est le truc, c'est qu'on ne peut plus rien dire sans être directement accusé, incroyable, agressé, et c'est vraiment incroyable. Et on ne peut pas réparer quelque chose qui ne va pas si on ne peut pas dire ce qui ne va pas, si on ne peut pas mettre les yeux sur ce qui ne va pas.
Psychodélique, juste une petite pause, un petit message pour nos auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, hein, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Psychodélique, Emmanuel Macron a récemment déclaré qu'il y a des millions de jeunes totalement français et totalement africains. Comment interprétez-vous ce type de discours dans le contexte de la cohésion sociale, nationale plutôt?
Pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que d'un coup, parce qu'on nous... On... J'allais être vulgaire, mais j'essaie de trouver d'autres mots. On nous enquiquine, on va dire ça comme ça. On nous enquiquine en disant non, il n'y a pas de trop d'étrangers, il n'y a pas trop, il y a beaucoup de tout ça. C'est une théorie du complot et tout le bazar. Et d'un coup, il dit, ah, il y a des millions. Du coup, ils sont des millions ou ils ne sont pas des millions? Ils existent, ils n'existent pas. C'est du coup, Mélenchon, quand il dit grand remplacement et tout ça, du coup, OK. Et au-delà de ça, là, parce que là, il est en train de faire sa tournée en Afrique.
En Afrique.
Il avait zéro fric
Macron.
Pour les... Macron, oui. Non, pas Mélenchon, Macron. Macron, il fait sa tournée en Afrique. Il avait zéro argent là, quand il y a eu la crise des agriculteurs. Il a réussi à mettre 300 millions de côté, vite fait. Là, pour les essences, pour l'essence, les prix de l'essence, il n'y a rien eu. Par contre, là, pour l'Afrique, 23 milliards ont été dégagés comme ça, en claquant des doigts. Et il appelle ça de l'investissement. Mais investir, c'est quand tu sais que tu vas avoir quelque chose en retour. Là, c'est 23 milliards de pertes, en fait. On n'aura jamais cet argent en retour.
En retour.
C'est hallucinant, cette gabegie d'argent, des milliards de dépensés à gauche, à droite, alors qu'en fait, le pays est dans un désastre hallucinant avec une dette qui a plus de 3000 milliards.
Oui.
Je ne sais même plus, en fait, ça n'a plus aucun sens. Et Macron, et du coup, de l'autre côté, Mélenchon qui dit « Non, la dette, elle n'existe pas, c'est faux. » En fait, quand je regarde les extraits, je me dis « Mais on est vraiment gouverné par des clowns et il n'y a personne qui a les pieds sur terre. Ils sont tous totalement déconnectés. » Et ça fait peur, quelque part.
N'est-ce pas un jeu aussi?
C'est sûr. Pour eux, oui, ils doivent vivre ça comme un jeu. Quoi. C'est...
Pourtant, il n'y a rien de... Enfin, bon, ça ne devrait pas exister, ce genre de machin. Quoi. Enfin, on le voit de plus en plus et on est complètement dépassé de voir des... Enfin, je ne sais pas.
Bah...
Est-ce qu'honnêtement, sans faire le rétro dans les années... Enfin, est-ce qu'on voyait ça encore il y a quelques... Enfin, excusez-moi, mais...
Non, mais c'est ça. Non, mais oui, on peut revenir dans les années 90, de fin 90, début 2000. Il y avait des politiques où j'avais encore l'impression qu'ils étaient un peu les pieds sur terre ou accrochés un peu avec la réalité.
Ou donnaient en tout cas l'impression... Là,
ou donnaient l'impression.
Plus du tout, là.
Là, j'ai l'impression que c'est des streamers qui s'affrontent entre Clash et en dessous. Mais bon, c'est un pays quoi qu'il y a derrière.
Psychodélique, je voudrais revenir sur l'IA qui bouleverse les graphistes, les artistes et même votre propre métier de créateur de contenu. Vous avez réagi à l'impact sur l'emploi et la qualité. Faut-il réguler, s'adapter ou voir cela comme un progrès inévitable ?
C'est ça, c'est un progrès. Pour moi, c'est un, l'IA, c'est un génératif, c'est un progrès inévitable, au même titre que la voiture a remplacé la charrue et les bœufs, au même titre que la télé a remplacé la photographie ou les peintures, ou la photographie a remplacé les peintres, ou ce genre de choses. Ouais. C'est vraiment, on ne pourra pas revenir en arrière. Et ça aide énormément de choses dans tellement de corps de métier. On ne se rend pas compte, en fait, dans le nombre de corps de métier qui sont bénéfiquement impactés par l'IA. Alors oui, il y a des corps de métier qui sont très touchés, notamment, comme tu as dit, les graphistes, les dessinateurs et ce genre de choses. Mais c'était déjà auparavant, avant l'IA, c'était déjà un métier qui était totalement saturé où pour 10 000 graphistes, il y en a 3 ou 4 qui s'en sortent. Donc, c'est pas l'IA qui va détruire ce métier. Par contre, l'IA, moi je suis très très content de la facilité et de la progression de l'IA en l'espace de même pas 3-4 ans.
3-4 ans, ouais.
Pour moi, c'est vraiment, ça a poussé une créativité folle. Beaucoup de gens ne pouvaient pas faire de petits films, de petits courts-métrages, de musique ou même de dessins ou ce genre de choses, mais ils avaient des idées plein la tête. Avec l'IA, ils peuvent vraiment assouvir leurs idées.
Mm-hmm.
Et au final, ce qui est bien, c'est qu'avant, il y en a, ils avaient des idées pas terribles, mais ils avaient de l'argent. Vous avez 100 000 balles, 200 000 balles. Et donc, ils te créent un film du CNC ou un film à la française un peu nul. Et maintenant, avec 10 fois moins de budget, 20 fois moins, 1000 fois moins de budget, on peut créer des petits courts-métrages et mettre son idée. Et ce qui est bien, c'est que pour moi, ça va niveler le niveau. C'est-à-dire que c'est plus la capacité à dépenser de l'argent pour avoir des gros moyens, pour avoir des bons effets ou ce genre de choses. Ça sera que l'idée qui restera. Est-ce que ton idée est bonne ? Dans ton histoire, est-ce qu'elle est bonne ? Et c'est ça qui va plaire. Et du coup, il y a de plus en plus de monde qui ont accès à ça, et c'est de plus en plus facile d'utilisation. Pour moi, c'est forcément, ça peut être que bénéfique. Yeah. Après, oui, comme je le dis, il y a des métiers qui vont se transformer, il y a des métiers qui vont se disparaître, mais il y a d'autres métiers qui vont être créés. Il faut mieux embrasser l'IA et comprendre ce qu'elle est capable de faire pour justement être force de proposition dans ces divers métiers, pour dire oui, moi je sais, on peut faire ça comme ça. Moi, j'étais administrateur système réseau pendant 7-8 ans. Quand j'ai arrêté le métier, l'IA ChatGPT a commencé à arriver. Mm-hmm. Et j'ai tout de suite senti le truc. Je disais à mes techniciens, les gars, ça, vous me le poncez à fond et vous l'utilisez au maximum. Vous regardez ce qu'il a dans le ventre. Et en fait, dès le début, on a pu augmenter notre productivité et notre efficacité grâce à ChatGPT dans le milieu de l'informatique. Il y a eu vraiment un avant et un après.
Et psychodélique, je voudrais vous entendre aussi quant au cas là, qu'on entend des antivirus hein, et le retour des discours sur les masques. Craignez-vous un nouveau cycle de peur sanitaire orchestré ? Quelles leçons tirez-vous des années Covid ?
Les années Covid, pour moi, déjà, j'ai deux filles, hein, ma grande de 13 ans. J'ai senti, quand il y a eu la scolarité à la maison suite au confinement, j'ai senti qu'il y a un manque parce qu'elle a raté 6 mois ou 8 mois d'école où c'était à la maison. Et presque une génération sacrifiée de cette période.
Je peux témoigner aussi.
Elle a des petites lacunes. On a fait au maximum, mais on n'est pas des professeurs non plus. Donc, elle a des petites lacunes sur 2-3 endroits. Maintenant, pour l'antivirus, j'ai l'impression qu'on vit. J'ai l'impression qu'on est dans un épisode de Groland. Donc, on a un bateau où il y a un virus. Bon, personne, nous, en tant que citoyens, on ne sait pas trop ce que c'est. On nous dit antivirus, on pense tout de suite au Covid. Forcément, on est tous un peu traumatisés. On nous dit il y a 40% à peu près de mortalité. Donc, déjà, ça va. Mais il n'est pas trop contagieux. Il y a 8 semaines d'incubation, entre 4 à 8 semaines d'incubation.
C'est ça, plus long que le Covid.
Et qu'est-ce qu'on nous dit juste après ? On les a rapatriés. Pourquoi on les a rapatriés ? Ils ont pris l'avion. Et après, il dit, oh bon, il y a 40 cas contacts à gauche, à droite. Mais pourquoi on les a pas laissés sur le bateau ?
Encore un truc qui nous dépasse.
On les laisse sur un bateau, on les met dans des capotes géantes, on les laisse pendant 8 semaines, on regarde ce qui se passe. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le même discours que pour le Covid. Pour le Covid, je m'en souviens, on a découvert en Chine un virus, le Covid. Il y a des militaires français qui étaient sur place. Il y en a un qui a contracté la maladie. On va le rapatrier.
Mm-hmm.
Mais vous êtes des... Je dis, c'est pas possible. Et il s'est passé quoi ? 3 jours après, il y a eu un cas dans une base militaire de Covid. Justement, ils l'ont rapatrié. Et là, ils ont rapatrié le truc. On est vraiment gouverné par des demeurés. J'ai pas d'autres mots. Là, il y a le patron de l'OMS. Un des dirigeants de l'OMS, il a dit, je l'ai vu sur une télé espagnole, il a dit Parce qu'il y a un des vieux qui a débarqué sans masque.
C'est ça.
Et le directeur de l'OMS a dit, oui, mais il ne pouvait pas porter de masque FFP2 parce qu'il a plus de 70 ans, c'est inconfortable. Je dis, mais on n'en a rien à battre que c'est inconfortable. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment ils prennent tout ça à la légère. Et en même temps, ils nous imposent des règles complètement absurdes où on n'a pas le droit de mettre un pied de travers.
Le paradoxe du pompier pyromane.
C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais.
Du CNRS finançant des thèses controversées au débat sur le vivre ensemble dans les jeux vidéo, j'en cite un, Civilization 7. Oui. Comment voyez-vous l'infiltration idéologique dans la culture populaire et la recherche?
C'est le symptôme de tout ce qu'il y a donné par rapport à la wokisation qui vient des universités américaines, qui s'est imposée du coup en France, qui a pris quelques années, mais qui maintenant est un peu passée de mode aux États-Unis, mais elle est encore très très forte. Et du coup, en France, elle reste encore très très forte, où il faut faire des études sur le vivre ensemble, il faut faire des études pour prouver que l'immigration n'est pas un problème, il faut faire des études. Et récemment, dans les jeux vidéo, ce qui est catastrophique, là, on a eu trois jeux qui sont sortis coup sur coup là récemment, notamment je pense à Aphelion ou à Directive 80-20, et un autre qui m'est sorti de la tête, mais les héroïnes, c'est des femmes noires, cheveux courts ou rasés, lesbiennes souvent, et c'est nul. Enfin, ils n'écrivent pas des personnages, ils n'écrivent pas des histoires pour que ça soit des bons personnages ou des bonnes histoires. Ils écrivent avec une checklist. Il ne faut pas qu'elles soient trop féminines. Faut pas être discriminatoire, donc une noire. Il ne faut pas qu'elles soient trop féminines, donc cheveux courts. Il ne faut pas qu'elles soient sexualisées, donc moches. C'est insupportable. Et donc, en fait, ils créent des histoires.
Fatigant, là, ouais.
Ils font des histoires avec une checklist. Il ne faut pas qu'il y ait de micro-agressions. Il faut avoir le quota de LGBT. Il faut avoir. Alors, évidemment, là-dedans, ça rentre dans le fait qu'il faut qu'il y ait au moins un blanc quarantenaire dans l'histoire, mais qu'il soit le méchant ou qu'il ait. Qui soit un peu toxique, un peu à gauche à droite, il ne peut pas être le héros bienveillant et ce genre de choses.
Mm-hmm.
Et c'est fatigant au possible. C'est extrêmement fatigant.
Et Psychodélique, en tant que créateur qui décortique l'actualité en direct, quel est votre regard sur la concentration médiatique française et le rôle des influenceurs comme vous dans le paysage informationnel?
Je trouve que... Justement, ça résonne bien avec ce qu'il y a eu autour de la commission, autour de France Télé. Moi, pour moi, France Télé, c'est un gâchis absolument total qui coûte 4 milliards d'euros par an.
Vous faites référence à Charles Lalonde.
C'est ça, avec Charles Lalonde et tout ça. Pour moi, on devrait totalement fermer France Télévisions au bout d'un moment. C'est une catastrophe. Quand il y a Delphine Ernotte qui te dit on n'est pas là pour représenter la France comme elle est, mais comme on voudrait qu'elle soit.
Mm-hmm.
Ça, c'est de la dictature. Enfin, Poutine aurait dit ça. Tout le monde serait vent debout en mode Beyblade. C'est scandaleux, la liberté de la presse et tout. Mais quand France Télévisions le dit, et que c'est des valeurs bien à gauche, là c'est bien. Et c'est une catastrophe, parce qu'ils ne font que répéter et faire le perroquet de ce que le gouvernement veut dire, ou de ce que la doxa ou l'idéologie principale veut dire maintenant. Moi ce que j'aime bien justement avec les créateurs de contenu, les influenceurs ou les journalistes 2.0 comme l'appelle Elon Musk, c'est qu'on garde notre liberté de ton, on est inféodé, on va dire ça comme ça.
Mm-hmm.
Alors pas tous, hein, évidemment, il y en a qui prêchent pour leur paroisse, d'autres prêchent pour leur paroisse, mais il y en a la plupart... essaye de faire le pour et le contre, de regarder un peu à gauche, à droite, et surtout cette liberté de ton, on peut dire ça en fait, on a envie de le dire, on a envie d'en parler, et cette liberté d'expression a totalement disparu sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé, il faut surtout pas parler de ça, il faut surtout pas parler de ça, là si t'abordes ça, il faut surtout pas parler de ça. Récemment, il y avait un extrait France Télévisions, où il y avait une des candidates sur un jeu télévisé qui disait « Ah oui, j'ai fait mon chemin de croix », et l'autre dit « Ah non, chemin de croix, non, mais aussi le croissant », c'est, on en vient à ce niveau-là.
Je
sais plus c'était quel truc, mais on en vient à ce niveau-là où la moindre rappel à de la chrétienté ou quoi, il faut dire non, vite fait, non, islam et tout le bazar. C'est hallucinant. C'est catastrophique. Et du coup, oui, cette liberté de parole qui arrive sur les réseaux sociaux par des personnes comme moi ou d'autres, ça fait un bien fou. Et ça permet aussi aux gens de dire il y a enfin des gens qui parlent un peu à gauche, à droite. Et ça leur permet de moins péter un câble aussi.
Et en une minute, Psychodélique, quel est selon vous, ça passe vite, le plus grand risque pour la France dans les années à venir, c'est-à-dire démographie, sécurité, économie, liberté d'expression? Et surtout, est-ce que vous avez un message d'espoir ou d'action pour les auditeurs vos auditeurs
En une minute, ça va être rapide. Pour moi, aux États-Unis, il y a eu Trump, il a des problèmes, il a aussi fait des trucs un peu bizarres. Mais pour moi, Trump a un peu sauvé l'Occident et les États-Unis par la victoire par rapport à Kamala Harris, qui est une ultra-woke qui aurait vraiment poussé le wokisme comme un tsunami sur le monde entier, qui aurait été une catastrophe. En France, ça va être pareil. En 2027, si Mélenchon passe, Mélenchon ou quelqu'un de son équipe passe, ça va être une catastrophe. Si c'est quelqu'un du centre, ça va être une catastrophe. Et pour moi, ça va être la fin de la justice, la fin de la police, la fin de ça va être vraiment la purge.
Bah, est-ce qu'on ne le voyons pas déjà un peu à Saint-Denis ?
C'est ça, on voit déjà un peu à Saint-Denis, totalement.
Mais écoutez, psychodélique, malheureusement, nous arrivons, c'est passé vite, hein, au terme de cet échange, sans concession. Hein. Merci à vous, psychodélique.
Bah, un grand plaisir.
Et comme d'habitude, pour votre franchise, hein, votre clarté et ce refus constant de la pensée unique, vous avez une nouvelle fois démontré pourquoi votre voix compte dans un paysage médiatique souvent verrouillé. Et face au silence coupable, aux manipulations et aux illusions confortables, hein, l'esprit critique reste notre meilleure arme. Donc à tous nos auditeurs, hein, ne laissez personne penser, on l'a bien entendu avec Psychodélique également, à votre place, informez-vous, débattez, agissez. Ça devient une urgence. Le courage intellectuel n'est pas une option, c'est une urgence. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Hein, si vous l'avez apprécié, partagez-le sans hésiter. La parole libre ne survit que par sa diffusion. Ben, j'espère à bientôt.
À bientôt.
Et surtout, n'oubliez pas, chers auditeurs, de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75-016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.